Vous allez bien? Super, ça marche. Ce matin, je voudrais parler de la Bible. Pas parler sur la Bible, mais parler de la Bible. Et si vous voulez déjà noter, pour ceux qui prennent des notes, le résumé du message, c'est facile, c'est lire la Bible, toute la Bible. J'aime beaucoup Spurgeon, vous savez, Charles Haddon Spurgeon, c'était un pasteur anglais qui était un homme de réveil, baptiste, très puissant. Qui avait la plus grande église à Londres et qui non seulement rayonnait du message de puissance de l'évangile et qui a amené beaucoup, 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 beaucoup d'âmes au Seigneur. Il a aussi formé beaucoup, 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 beaucoup de pasteurs et ses écrits continuent à bénir beaucoup de gens. Donc c'est vraiment un homme de Dieu qui a marqué l'histoire, Charles Spurgeon. Et une de ses devises, c'était celle-là. Donc je ne vous la dis pas en anglais, hein, elle est écrite, mais visitez beaucoup de bons livres, mais habitez dans la Bible. Alors vous voyez, il y a ce petit schéma qui a cherché ce petit dessin qui cherche à le montrer. C'est un portrait d'ailleurs de Charles Spurgeon. On voit à côté de lui beaucoup de bons livres. Et c'est vrai que dans le monde chrétien, il y a beaucoup de bons livres. Mais sa devise, c'était certes, lisez de bons livres chrétiens, lisez de bonnes biographies, mais habitez dans la Bible. Et lire la Bible au sens où je vais parler ce matin, c'est vraiment ça. C'est pas lire la Bible, c'est habiter dans la Bible. C'est faire de la Bible vraiment notre maison, notre source, notre vie. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je vais être assez synthétique ce matin, même si j'ai des choses à dire. Mais un des chapitres les plus importants et qui parle le plus de l'Écriture, dans l'Écriture même, c'est le psaume 119. Et le psaume 119, vous savez que c'est le psaume le plus long de la Bible. J'ai hésité à le lire en entier ce matin, on aurait pu, mais comme il y avait beaucoup de choses, on ne va pas le faire. Mais je voudrais citer quelques phrases du psaume 119. Le psaume 119 est vraiment centré sur les Écritures. Et c'est un homme amoureux des Écritures qui a écrit le psaume 119. Il a par exemple écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Donc la Bible, la parole de Dieu, c'est vraiment notamment par exemple une façon de conduire sa vie, de connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu demande, et puis de marcher dans ces sentiers-là. Hein? Comment rendre pur son sentier? Surtout pour les jeunes. Alors je ne sais pas si ce verset-là s'adresse que aux jeunes, mais en tout cas il s'adresse en particulier à eux, notamment, eh bien, en se dirigeant d'après ta parole. Il y a aussi ce texte, ce verset, le verset 10, qui dit « Je te cherche, Dieu, de tout mon cœur ». Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Dans le psaume 119, si vous le lisez, vous verrez qu'il y a beaucoup de mots différents, mais qui en fait sont synonymes. Parole de Dieu, commandement, loi, etc. Tout ça, c'est la même chose en fait. Ça nous parle de l'Écriture et de la parole de Dieu. Et on voit là un homme qui s'exprime et qui a à cœur la Bible, qui a à cœur, non, pardon, qui a à cœur Dieu, qui cherche Dieu de tout son cœur. Et chercher Dieu de tout son cœur, ça a du sens, c'est vraiment fort. C'est pas simplement, tiens, je vais aller à l'église pour essayer de savoir comment est Dieu, quoi. Non, c'est je cherche Dieu de tout mon cœur. Et quelle est la suite logique de la phrase? Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas m'éloigner loin de ta parole. Encore un autre verset, le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Vous savez que pécher, dans la Bible, le mot pécher, ça veut dire manquer la cible, se tromper de chemin, prendre un mauvais chemin. Et la Bible nous dit, ce texte nous dit, je serre ta parole dans mon cœur. On ne dirait pas ça d'un roman ou de je ne sais pas quel bouquin, mais on peut dire ça de la Bible. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas dévier du chemin à nouveau. Verset 105, que j'espère on connaît tous par cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et ce verset nous dit, mais comment veux-tu te diriger dans un monde sombre, sur un sentier non balisé, si tu n'as pas une lampe qui te guide? Parce que le monde est comme ça. Le monde est un non-monde sombre et le sentier n'est pas balisé. On a besoin de ça pour avancer. Alors l'auteur va dire par exemple une chose comme ça aussi, verset 13. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences, toutes les paroles de ta bouche. Ce que je trouve sympa là, c'est si on regarde bien ce verset, il y a un bouche à bouche avec Dieu. De mes lèvres, j'énumère les paroles de ta bouche. Il y a un bouche à bouche avec Dieu. Je ne sais pas si c'est de la réanimation qui marche bien, mais je crois que oui. Hein. Ça marche même mieux que la tienne, Amy. De mes lèvres, j'énumère. La parole de Dieu, on a dit, on la serre dans notre cœur. Ce verset nous dit que la parole de Dieu, elle doit être dans notre bouche. De la même façon qu'elle est dans la bouche de Dieu. La révélation de tes paroles, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne l'intelligence aux simples. Si on manque d'intelligence, la Bible est là pour suppléer. Extraordinaire. La révélation des paroles de Dieu. Je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand trésor. Trouver la parole de Dieu, c'est trouver un grand trésor. Ce n'est pas quelque chose de petit, et ce n'est pas quelque chose de sans valeur. C'est un trésor et c'est un grand trésor. Elle est épaisse, hein, ma Bible. Il y a beaucoup de commentaires dedans, mais... Enfin, je termine par ce verset. Il n'y a plus de place sur la slide. Verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour ceux qui se plongent dans la loi de Dieu, dans les Écritures, il y a beaucoup de paix. Si tu manques de paix, plonge-toi dans les Écritures. Plonge-toi dans la Bible. Passe du temps dans la Bible. C'est tellement important. Un homme illustre, l'apôtre Paul, grand homme de Dieu, un monstre sacré, j'allais dire, de la Bible, si on peut employer ce genre de terme, écrit à son, alors qu'il est bien au loin et pour longtemps, il écrit à son disciple Timothée. Timothée qui est déjà un homme de Dieu, qui est déjà quelqu'un de très important, qui nomme des anciens dans les églises, etc. Donc Timothée, ce n'est pas n'importe qui. Et quand Paul écrit à son disciple Timothée, on pourrait lui dire, penser qu'il lui donne des conseils très importants, très profonds, très spirituels. Alors oui, ça il le fait aussi, mais il lui donne aussi ce conseil. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. 1 Timothée 4,13. Je ne sais pas si j'étais loin de l'église et si j'écrivais à Pierre, à Timothée ou à un de vous. Je ne sais pas si en fait... Ce que je mettrais dans ma lettre, c'est n'oublie pas de t'appliquer à la lecture des Écritures. Et pourtant, c'est ce que Paul fait. Paul rappelle à Timothée, l'homme de Dieu, n'oublie pas la lecture des Écritures. N'oublie pas la lecture. En fait, lire, comprendre et apprendre la Bible. Pour moi, ça, c'est quelque chose de capital. On ne peut pas mener une vie qui soit chrétienne sans les Écritures. On ne peut pas mener une vie chrétienne fructueuse sans les Écritures. On ne peut pas mener une vie chrétienne qui va transmettre. Parce que oui, on peut vivre, on peut être né de nouveau, avoir fait la rencontre avec Jésus, et puis lire des petites doses de l'Évangile de temps en temps, et alléluia, gloire à Dieu, on n'ira pas en enfer. Hein. Rassurez-vous. Mais si on veut vraiment mener une vie solide en Christ et que cette vie, elle en donne d'autres, moi je suis convaincu que ça passe par l'amour et la connaissance des Écritures. Très important. Parce que mener pour soi une vie spirituelle superficielle, oui, alléluia, gloire à Dieu, la vie est belle et Dieu nous aime et on est sous la grâce. Mais vouloir vraiment servir Dieu, vouloir vraiment impacter ce monde, vouloir vraiment impacter, bénir l'Église et impacter notre famille et que notre témoignage, notre vie ici-bas ait un impact sur d'autres générations, nos propres enfants, petits-enfants, etc., mais aussi les enfants des autres et la génération d'après, je suis convaincu que ça passe par la connaissance des Écritures. Lire, comprendre, apprendre. Et lire, comprendre et apprendre toute la Bible. Le Nouveau Testament ne suffit pas. Toute la Bible. J'ai une question. Quelle était la Bible de l'apôtre Paul ? La Torah, le Tanakh, la Torah, les prophètes, les écrits, l'Ancien Testament, ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot, hein, vous le savez, mais je l'emploie quand même, c'est pratique, l'Ancien Testament. L'apôtre Paul n'a pas eu d'autre Bible que l'Ancien Testament. Quelle était la Bible de l'apôtre Pierre ? L'Ancien Testament. Quelle était la Bible de l'apôtre Jean ? Leur vie chrétienne n'est pas terrible. Hein. Ça parle, ça, non, quand même ? Ça parle. Quelle est ma Bible ? Alors, je ne parle pas de la Bible que vous avez dans les mains ou dans votre téléphone portable. Hein. Quelle est la Bible que tu lis, que tu connais, que tu visites, dans laquelle, Spurgeon dirait, dans laquelle tu habites ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le Nouveau Testament, hein ? Loin de moi cette pensée. Mais quand même, quand on parle de la Bible, théoriquement, on parle de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est venu... D'ailleurs, le Nouveau Testament, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup un complément, une explication, une révélation, un approfondissement, un éclairage différent. Approfondissement, je ne dirais peut-être pas ça, mais un éclairage différent de ce qui est déjà écrit. Parce que si l'apôtre Paul, par exemple, qui n'a pas, parce qu'on peut dire, oui, mais Pierre, Jean, ils ont vécu avec Jésus pendant 3 ans, il les a formés, il les a donc quand même, bon, d'accord, ils avaient les écrits, mais ils avaient aussi... Mais Paul, non. L'apôtre Paul, non. L'apôtre Paul était comme nous. Il n'a pas connu Jésus dans la chair, il n'a pas suivi Jésus dans la chair. Bon, ça nous a été rappelé ce matin, c'est sur le chemin de Damas que, pouf, une révélation. Comme un jour, sur notre chemin de Damas, Dieu est venu nous rencontrer. Donc, Paul n'a pas vécu l'Évangile, n'a pas, avec Jésus pendant 3 ans, la formation de Jésus, etc. Donc, vraiment, la seule Bible de Paul, c'était bien ça. Alors, bien sûr, après, les écrits ont commencé à circuler, les Évangiles, déjà, de bouche à oreille, ont commencé à circuler, etc. Mais réalisons ça. Réalisons que si la Bible de Paul, c'était l'Ancien Testament, quelque part, l'Ancien Testament suffit. C'est ça ma Bible. Alors j'exagère, je pousse le bouchon forcément un peu loin, c'est le but. Mais pour vraiment nous rappeler que oui, lire la Bible, mais toute la Bible, toute la Bible. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est compliqué. Moi déjà, quand je me plonge dans le livre des Nombres, j'y suis déjà allé, mais... Au bout d'un chapitre ou deux de généalogie, je me suis dit que finalement, lire l'histoire de la Samaritaine, c'est plus sympa, quoi. Hein. Et pourtant, est-ce que les généalogies sont moins la parole de Dieu que la Samaritaine ? Non, tout a un sens, tout a quelque chose à nous apprendre. Alors je voudrais ce matin, et c'est ce que je vais faire là, vous donner quelques clés. Donner quelques clés, il y a beaucoup de nouveaux parmi nous, donc ce sera des clés utiles pour eux. Il y a beaucoup de pas nouveaux parmi nous aussi, et ce sera aussi des clés, parce que je me suis rendu compte que même après 10, 15, 20 ans de vie chrétienne, on peut ne pas avoir les clés pour pénétrer dans la Bible, et on peut surfer sur certains passages bibliques et puis plonger mieux dans d'autres. Alors déjà, juste une statistique, on n'est pas obligé de garder les yeux ouverts pour le... Mais j'aimerais savoir qui a au moins une fois lu toute la Bible en entier, 100%. Levez la main, ceux qui ont déjà lu toute la Bible en entier, 100%. C'est bien, il y a plus de la moitié, super. Félicitations, c'est bien. Mais je voudrais vous encourager, vous aussi. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait encore, ben je vous encourage à le faire et je vais vous donner quelques clés pour le faire de façon un peu plus facile. Et ceux qui l'ont déjà fait, ben je vous encourage à le refaire. Alors, vous le savez très bien, pas forcément de la Genèse à l'Apocalypse. Ce n'est pas comme ça qu'on lit la Bible, on peut. Et parfois, de se donner, vous savez, il y a des petits guides pour lire la Bible en un an, ça peut être super. Mais il y a d'autres façons de lire la Bible. Moi, en ce moment, j'ai entrepris une autre façon de la lire. Parce que c'est important, c'est intéressant. Donc, je vais vous donner quelques clés. La clé numéro 1 que je voudrais vous donner, c'est que Dieu a choisi de se révéler et de faire connaître ses voies au travers d'un homme, Abraham, et au travers d'un peuple, Israël. Ça, c'est une clé très importante. Quand j'aborde la Bible, j'aborde pas un sermon, j'aborde pas une compilation de sermons. Je ne lis pas un livre qui a été écrit d'abord pour moi, ou d'abord pour parler de moi, mais j'aborde un livre qui parle d'un homme et d'un peuple. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, tout ce qui fait notre fondement, c'est ce qui s'est passé avec cet homme et avec ce peuple. L'alliance qui fait que je peux aujourd'hui, comme on l'a fait, adorer Dieu, cette alliance, elle n'a pas été faite avec moi à l'origine. Elle a été faite avec un homme, Abraham. Et c'est parce que cette alliance a été transmise, c'était une alliance contagieuse, j'allais dire, de transmission générationnelle. C'était transmis aux descendants de la promesse, à Isaac, à Jacob, etc. Et puis donc à tout le peuple d'Israël. Et puis ça s'est élargi en Jésus-Christ à toutes les autres nations. Mais c'est d'abord l'histoire d'un peuple et d'un homme. Donc il faut connaître un petit nombre de choses du contexte de cette révélation pour bien la comprendre, pour l'assimiler et l'intégrer dans notre pensée et dans nos cœurs. On aime bien en général lire les livres d'histoire ou lire les témoignages. On aime bien, quand on a besoin de se détendre pour regarder un film qui raconte une histoire de quelqu'un, d'une vie, alors soit de quelqu'un de célèbre, soit une histoire l'eau de rose, soit... Mais les histoires, ça nous plaît, en effet, pour écouter des histoires, entendre des histoires. Mais la Bible, c'est l'histoire d'un homme et d'un peuple dans leur relation à Dieu. Et ça, c'est fait pour nous aider. C'est la clé numéro un qu'il faut toujours avoir en tête. Quand j'aborde la Bible, où je me situe dans cette histoire? Il y a une histoire là qui se déroule devant moi. La clé numéro 2, c'est un petit prérequis géographique. Cette révélation qui a été faite à Abraham et puis à sa descendance Israël, elle a un cadre géographique. Et ce cadre géographique principal, c'est le Proche et le Moyen-Orient, et c'est le bassin méditerranéen. Ça ne s'est pas passé en France. Et donc, nous, bons Français, on doit se décentrer un petit peu pour ouvrir la Bible, puis se dire, mais attends, c'est où ça? Déjà, on se dit, c'est qui? C'est Abraham, c'est Israël. Puis après, on dit, c'est où? Ben, c'est où? C'est le Proche Moyen-Orient, bassin méditerranéen. Ça veut dire qu'il y a des petites choses à connaître. Alors, vous allez voir, je ne vais pas aller très loin. Hein. Quand la Bible nous parle de l'Égypte, c'est où? Ben, c'est en Égypte. C'est dur, hein? Quand la Bible nous parle de l'Assyrie, A-2-S-Y-R-I-E, c'est où? L'Assyrie. Ben, quand elle nous parle de l'Assyrie, c'est la Syrie. En gros, hein? Quand elle nous parle de Babylone, de la Chaldée, là c'est un peu plus compliqué, c'est l'Irak. en gros. Quand elle nous parle de la Perse, l'empire des Mèdes et des Perses, c'est l'Iran. Quand elle nous parle de la Grèce, c'est la Grèce. Quand elle nous parle de Rome, c'est Rome, l'Italie. Et quand elle nous parle de l'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle. Si vous pouvez situer ça sur une carte, vous aurez le décor pour vraiment comprendre la Bible et tout un tas de choses que vous n'aviez pas vues et que vous allez voir maintenant. Alors, c'est pas compliqué, hein ? Voilà cette carte de l'Asie mineure, du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Donc l'Égypte qui est là, on se souvient du peuple esclave en Égypte, qui a traversé la mer Rouge pour aller en Israël. Dans ma liste, je ne vous ai pas fait l'affront de vous dire Israël, c'est où ? Hein ? Parce que je suppose que vous pensez que Israël, c'est pas au Mozambique, c'est vraiment bien en Israël. Non, mais je dis ça parce qu'il y en a qui se posent la question aujourd'hui. Mais que font les Juifs en Israël ? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'Assyrie. L'Assyrie, l'Empire assyrien, on va le voir, un très grand rôle dans Israël. Puis après l'Empire assyrien, c'est l'Empire babylonien qui va avoir un grand rôle. Puis ensuite, c'est l'Empire perse qui va avoir un grand rôle. Puis ensuite, c'est l'Empire grec. Ça, ce n'est pas écrit dans nos Bibles, mais j'en dirai un mot. Puis ensuite, je ne l'ai pas mis parce que j'espère que vous savez où est l'Italie. Quand même, on est des citoyens européens. Donc voilà, hein, l'Italie, Rome vont avoir un grand rôle aussi. Donc voilà, vous avez déjà tout le contexte géographique suffisant pour comprendre et saisir la Bible. Alors, encore une clé, la troisième clé, et ce sera la dernière clé. Vous voyez que trois clés, ça suffit. Pour comprendre la Bible, trois clés suffisent. Première clé, c'est une révélation dans une histoire. Dieu ne nous a pas envoyé un traité de théologie, il nous a décrit, s'est révélé dans l'histoire d'un homme, Abraham, et dans l'histoire de son peuple, Israël. Deuxième clé, un peu de géographie. 4, 5, 6 empires qui se sont succédés à connaître, à situer à peu près. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est facile parce que c'est le même nom. Et puis troisième clé, c'est un petit requis chronologique, historico-chronologique. C'est un peu de chronologie, puisque c'est une histoire, il y a un début, il y a une fin, et puis il y a un déroulement progressif. Et quand on ouvre la Bible, c'est très important de savoir où on est. On aime beaucoup, par exemple, nous, en tant que chrétiens, on aime beaucoup le prophète Ésaïe. Mais est-ce que vous savez où et dans quel contexte et quand a écrit Ésaïe ? Alors non, on ne sait pas souvent, la plupart du temps. Mais c'est important, ça peut être utile de savoir. Ça, je dis ça même pour les vieux chrétiens qui croient connaître toute la Bible, comme moi, hein, on croit tout savoir au bout de 40 ans de conversion. Et non, il y a plein de choses qu'on a à découvrir encore. Et de savoir que Ésaïe, ça ne s'est pas tombé du ciel non plus comme ça. Ésaïe a écrit dans un temps précis, etc. Alors, on connaît tous les beaux messages d'Ésaïe, hein, Ésaïe 53 sur le serviteur souffrant, Ésaïe 60, la gloire du peuple de Dieu, etc. Bon. Ésaïe 61, que Jésus va lire dans la synagogue, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Donc tout ça, bien sûr, on connaît. Mais il y a tellement plus de richesses. Et donc un petit prérequis chronologique. En fait, il faut poser le cadre chronologique. La révélation a pour cadre historique principal, je l'ai dit, l'histoire d'un homme et de l'alliance que Dieu a fait avec lui, Abraham. Ça, je l'ai déjà dit. L'histoire du peuple qui est né de cet homme et qui est porteur de cette alliance, c'est-à-dire Israël. Donc ça va nous amener quoi ? À connaître un certain nombre de choses. Et la Bible, c'est un livre chronologique. Alors non pas que les livres sont dans l'ordre chronologique. Ça, c'est un piège. C'est pour ça que ce n'est pas toujours utile de lire la Bible, la Genèse à l'Apocalypse, parce que beaucoup de livres ne sont pas chronologiques. On va en dire un mot tout à l'heure. Mais il y a quand même une chronologie. La Bible commence au début et elle finit à la fin. Ça, c'est bien quand même. La Bible commence à la Genèse et elle finit à l'Apocalypse. La Bible commence au début et elle commence, donc c'est quelque chose qui nous a précédé un petit peu quand même. Ça fait un bail hein, que Dieu a créé l'univers. Et elle finit à la fin, mais non pas à la fin de la Bible, non pas à la fin d'aujourd'hui, non pas à la fin de ma vie, mais elle finit à la fin du monde. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ça veut dire que moi, Joël, en 2019, je m'inscris dans une histoire. Je suis là-dedans. Je suis là-dedans, dans une histoire qui n'est pas encore finie, qui est en déroulement. Alors, en 4 slides, je vais vous dérouler toute cette histoire. Ça, c'est des outils. Pour ceux qui prennent des notes, c'est facile. Pour ceux qui n'en prennent pas, peut-être qu'il y aura un moyen de vous les transmettre. Mais c'est des slides très utiles pour quand vous allez ouvrir tel ou tel livre de la Bible, de savoir où vous êtes et quand vous êtes. Parce que lire quelque chose sans savoir ni où on est, ni quand c'est déjà beaucoup plus compliqué à comprendre. Alors, je vais noter en temps zéro la création de l'univers, la terre, Adam et Ève, le péché, Noé, le déluge. Vous voyez qu'on survole, hein, on y va vite, hein, mais c'est déjà toute une histoire. Et ça, on le trouve dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible. On va passer à 2000 ans après, environ, après 2000 ans de la création, on a Abraham qui apparaît, puis les patriarches, Isaac, Jacob, puis les 12 tribus. Ça, on le trouve encore dans la Genèse. Et c'est dans cette période-là, et ça, vous ne le saviez peut-être pas, mais qu'on estime que le livre de Job a été écrit. Vous voyez, le livre de Job, qui n'est pas du tout là dans la Bible. Hein, mais en gros, d'après les experts, c'est dans cette période-là que le livre de Job a été écrit. On ne sait pas exactement qui a écrit Job. On pense que ça pourrait être Moïse. On pense que ça pourrait être aussi Salomon. Il y a tout un tas de discussions par rapport à plein de choses. Mais a priori, l'épisode raconté dans le livre de Job se situe dans cette période-là. Alors, on va avancer. On est à moins 1500, donc c'est 1500 ans avant Jésus. Hein. On tombe sur Moïse. Le peuple était en Égypte. Souvenez-vous de la carte. On était en Égypte. Le peuple sort d'Égypte et va aller vers Canaan. Il va tourner pendant 40 ans dans le désert. Là, il va recevoir le don de la Torah, les 5 premiers livres, les tables gravées de la loi. Ils vont construire le tabernacle, cette tente où Dieu va habiter au milieu d'eux. Ils vont instituer les sacrifices. Le sacrifice de Jésus, on a pris la Sainte Cène tout à l'heure, le sacrifice de Jésus, si on ne le replace pas dans son contexte, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui accepte les sacrifices humains, qui en plus accepte le sacrifice de celui qu'on appelle son fils unique, etc. Enfin, réalisons pour les gens hors Église, ça n'a pas de sens. C'est complètement... Si on ne l'enracine pas dans quelque chose. Donc la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et tout ça, c'est raconté dans Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc les 5 premiers livres. On passe à moins 1400 à peu près, avec Josué. Donc ils sont arrivés, Moïse les a conduits jusqu'à l'entrée de la terre promise. Là, ils vont entrer, ils vont conquérir la terre promise, la terre de Canaan qui va devenir Israël. Et c'est tout le livre de Josué. On avance, on passe à moins 1050 environ. L'installation en Israël s'est faite, mais elle se poursuit parce qu'il y a encore de la conquête à faire. Et c'est la période des juges. Le livre des juges, c'est un livre tellement important à lire pour comprendre un peu la vie du peuple à cette époque. Et donc la période des juges, ça comprend le livre des juges, bien sûr, mais aussi le livre de Ruth, aussi 1 Samuel, commence dans cette période-là, puisque Samuel était un prophète, mais c'était le dernier juge en Israël aussi. On passe à moins 1000, et à l'institution, après la période des juges, à l'institution de la royauté. Un peuple qui est uni et qui est glorieux. Saül, grand roi, premier roi d'Israël, imparfait. David, bien imparfait aussi, mais un homme selon le cœur de Dieu, qui conquiert, et Israël n'a jamais été aussi grand en territoire que du temps du roi David. Salomon, son fils, glorieux, une sagesse tellement réputée. Et ça, on le trouve dans les livres de 2 Samuel, 1 de Rois, les psaumes, les proverbes, Ecclésiaste, tout ça, c'est cette période. Et donc, peut-être Job aurait été écrit à ce moment-là, donc bien avant, bien après l'histoire. Sinon, l'histoire de Job, c'est une histoire qui s'est transmise oralement de génération en génération. Période glorieuse avec la construction du premier temple. L'histoire, pour lire la Bible, se repérer dans les temples de Jérusalem, c'est hyper important. Parce que tous les prophètes sont totalement incompréhensibles si on ne sait pas où on se situe au niveau du temple. Et là, le premier temple est construit. Où est-ce qu'il est construit ? À Jérusalem, sur l'actuelle esplanade qu'on connaît bien, où actuellement il y a 2 mosquées. Puis ce royaume uni et glorieux va malheureusement vivre des catastrophes. En moins 925, il y a une division du royaume en deux. Donc, avec Israël au nord, 10 tribus. Je l'ai affiché, ouais. Et puis, le royaume du sud, Juda. 2 capitales. Une, Samarie, l'autre, Jérusalem. Et puis, vous avez la liste des livres. 1 de Rois, Élie, Élisée, Abdias, Joël, Jonas, Amos, Osée. Juste un petit mot sur les petits prophètes. Vous savez, on lit souvent les petits prophètes. Alors ça, on les lit parce qu'ils sont courts en général. Donc c'est bien, on ne comprend pas grand-chose parce que c'est un peu compliqué si on ne sait pas comment ils se situent. Et en fait, comme ils sont situés dans la Bible ensemble, on a l'impression que c'est la même période. Ça n'a rien à voir. Regardez là, vous avez Élie, Élisée, Abdias, Joël, Jonas, Amos et Osée qui sont là. Et puis vous allez en avoir d'autres ailleurs. En moins 722, c'est petit à petit la dégringolade morale complète, sociale et spirituelle du royaume du Nord, qui tombe dans l'idolâtrie, qui s'éloigne de Dieu, qui imite les nations alentour. Il y a le jugement de Dieu, l'Assyrie, dont on a parlé tout à l'heure. C'est plus l'Égypte là qui domine, c'est l'Assyrie. Et l'Assyrie va conquérir Israël, déporter beaucoup de ses habitants, les remplacer par des païens. Ces païens, ça va devenir les Samaritains, qu'on retrouve dans l'Évangile. Et dans cette période-là, c'est Michée et Ésaïe qui prophétisent. Puis on passe à moins 600, irrégularité morale et sociale et spirituelle du royaume du Nord. Donc le royaume du Nord, Juda, a continué à exister 100 ans après que le royaume du Sud, Juda, a continué 100 ans de plus à exister après que le royaume du Nord ait été détruit. Mais lui aussi va petit à petit avec, il y a des jolis rois, puis il y a des rois fidèles et des rois totalement infidèles. Et Dieu va finir par les juger. Et c'est Babylone, cette fois-ci, les Chaldéens, qui vont envahir le royaume du Sud. Et les Israélites vont être déportés à Babylone. Et ça, on connaît bien, sur le bord des fleuves de Babylone, « By the rivers of Babylon », ça, on connaît au moins. Bonéhème chantait la Bible. Il va pleuvoir. Jérusalem, grand drame que commémorent encore les Juifs tous les ans, parce qu'on connaît la date. Grand drame, le premier temple est détruit. Et Jérusalem est détruite aussi. Et là, c'est les prophètes Nahum, Sophonie, Habacuc, Jérémie, Lamentation, Daniel et Ézéchiel qui prophétisent dans ce moment-là. Du retour de l'exil à Jean-Baptiste. En moins 540, Dieu va faire grâce à son peuple, parce que Dieu fait toujours grâce à son peuple. Pas à cause de lui, mais pas à cause du peuple, mais à cause de Dieu lui-même. Donc, moins 540, c'est le retour de l'exil. 70 ans après, le roi Cyrus, roi de Perse, c'est l'Iran là maintenant qui domine, c'est la Perse, et Cyrus va décider de renvoyer des Israélites en terre sainte, en terre d'Israël, et de reconstruire Jérusalem et de reconstruire le temple. Il va y avoir beaucoup de hauts et de bas, ça va se faire, mais finalement ça va finir par être conclu et inauguré. Voilà. Et ce sont les prophètes âgés, Zacharie, Esther, Esdras, de Chroniques, Malachie, Néhémie, dans cette période-là. Et puis là, on arrive vers moins 420, et là il se passe quelque chose d'important, c'est que Dieu se met à ne plus parler. Notre Bible, là, est terminée. Notre Ancien Testament est terminé. Le dernier épisode en termes historiques de la Bible, c'est Néhémie. Quand vous lisez Néhémie, vous lisez la dernière histoire de l'Ancien Testament. C'est fini après. Il n'y a plus rien. C'est dans cette période-là que le livre d'Esther a été écrit. Esther se situe en Perse, la capitale de Perse, à Suse. Et Esther fait partie de ceux qui ne sont pas repartis en Israël, qui sont restés. Tous les Juifs ne sont pas repartis. Puis donc, la Bible est muette pendant 400 ans. 400 ans de silence, plus de prophètes, il y a un trou. Mais pendant ces 400 ans, l'histoire ne s'arrête pas, il continue à y avoir des choses, mais nos Bibles ne le racontent pas. Donc il y a d'autres textes qu'on trouve dans les Bibles catholiques, qu'on appelle les Bibles, les textes, les livres deutérocanoniques. Ils nous racontent que c'est la Grèce qui devient l'empire dominant et qui va tenter de détruire Israël, non pas par la guerre et en partie, ils vont le faire aussi, mais surtout en les hellénisant, c'est-à-dire en évacuant toute la culture d'Israël et en la remplaçant par la culture grecque. Mais ils ne vont pas y arriver. Il va y avoir des révoltes, notamment, vous avez au moins entendu parler de la révolte des Maccabées. C'est pour ça que d'ailleurs que les clubs de sport en Israël s'appellent les Maccabées. Et l'épisode donnera naissance à la fête de Hanouka, dont vous avez déjà entendu parler, qui n'est pas une fête biblique, mais que Jésus a célébrée. Jésus allait à Jérusalem pour Hanouka. Ensuite, on le sait, c'est Rome qui devient l'empire dominant. Et c'est durant cette période que Dieu va de nouveau parler. Et en plus 20, plus 25 environ, quelqu'un va se lever, un homme qui s'appelle Jean. Il va se lever, il va baptiser les Juifs repentants, ceux qui veulent revenir à Dieu, dans le Jourdain. Et il annonce l'arrivée imminente du Messie. Et il va même le présenter, ce Messie, à ses propres disciples, Jésus, son cousin, qui va donc arriver. C'est la lecture, on peut le voir dans la lecture des évangiles. Voilà, j'ai plus que deux slides. De la première à la deuxième venue du Messie. Vous voyez que là, on balaye. Hein. Donc de plus 25-27, quand Jésus commence son ministère, il prêche l'évangile, il forme des disciples, ces disciples qu'il va envoyer vers les Juifs, pas vers les nations, mais il va les préparer à aller vers les nations plus tard. Vers 30, il est crucifié, ressuscité, enlevé au ciel sous les yeux de ses disciples. Les disciples reçoivent le Saint-Esprit. On va célébrer la Pentecôte bientôt. Ils se mettent à prêcher l'Évangile. Je vais un peu plus vite. Il y a des persécutions. Mais l'Église, pendant plusieurs années, est totalement et uniquement, concerne uniquement Israël. Il n'y a aucun païen qui est concerné par l'Évangile. Il y en a eu deux pendant la vie de Jésus. Vous savez, cette femme syrophénicienne et puis un autre, un Romain. Mais sinon, on est toujours, j'allais dire, dans le bain Israël. Et puis, il y a un rabbin, Saul, un jeune rabbin, qui est miraculeusement touché par la puissance de Dieu. Ça va devenir Paul, en plus 32. Il va devenir le grand apôtre 15 ans après. On ne réalise pas toujours aussi que Paul a été touché, puis qu'il a vécu 15 ans de formation, de formation pratique et théorique, j'allais dire, avant de vraiment devenir l'apôtre Paul. Et puis ensuite, des communautés à majorité non-juive vont naître et vont se répandre. Beaucoup d'apôtres meurent martyrs, notamment Paul et Pierre vers 66-67. Et l'apôtre Jean conclut et clôture la rédaction des Écritures par ses lettres, son évangile et le livre de l'Apocalypse. On estime ça vers 95 à peu près. En 70, il y a eu la destruction du deuxième temple, ce qui explique qu'aujourd'hui sur l'esplanade, il n'y a plus de temple. Disparition ensuite et déviance, ça c'est important, on aura l'occasion d'en reparler, mais une disparition ou une déviance des communautés juives messianiques. Comme j'ai dit au départ, l'évangile et les chrétiens, entre guillemets, qui ne s'appelaient pas chrétiens à l'époque, c'était uniquement des juifs. Et puis il y a toujours eu après, donc en Israël, les communautés à majorité juives, chrétiennes juives, donc juives messianiques, et puis à l'extérieur d'Israël, les communautés païennes, à majorité païenne. Et les communautés juives messianiques ont été amoindries et ont été en fait en grande partie détruites en même temps qu'Israël a été détruit par les Romains avec le temple et tout ça. Et puis certains se sont exilés, sont partis et ont dévié. ont dévié dans différentes sectes et ça a donné les ébionites, etc., beaucoup d'hérésies. Voilà. Et donc l'Église chrétienne a continué comme ça, à majorité non juive, ce qui explique cet éloignement de la culture hébraïque. Mais il faut toujours se souvenir que notre histoire a été greffée sur une histoire d'Abraham et de son peuple. La dernière phase, c'est celle que nous vivons, l'évangélisation, l'implantation de communautés dans le monde entier, avec l'attente du retour de Jésus, lors de temps bien difficiles pour les chrétiens et pour Israël et les juifs, mais un temps qui verra à la fin tout le peuple juif, j'ai fait une belle faute d'orthographe, reconnaître son Messie. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Je me suis demandé si Jésus s'était posé la question, où est-ce qu'il allait revenir ? Alors, il y a une majorité d'évangéliques aux États-Unis, donc Jésus va revenir aux États-Unis. C'est ce que différentes sectes ont dit. Hein ? Non, pour Jésus, c'est une évidence. Où est-ce que je vais revenir ? Bon, la Bible le dit, ben c'est en Israël. Voilà, mes pieds vont se poser, c'est le prophète qui l'a dit, sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Alors là, je vous ai mis pour rire une date, en 2240. Alors pourquoi je mets 2240 ? Parce que dans la chronologie biblique et dans la chronologie juive, en fait, il y a l'an zéro, en gros, à peu près, avec la création du monde d'Adam, etc. Puis il y a 2000 ans jusqu'à Abraham, puis il y a 2000 ans jusqu'à Jésus. On pense qu'il y a un nouveau temps de 2000 ans de période de l'Église. Ça fait 3 fois 2000 ans, ça fait 6. Et une semaine, ça comporte combien de jours ? 7. Et donc, quand Jésus va revenir, il va y avoir 1000 ans, et ce sera fini. Après, c'est le nouveau ciel, la nouvelle terre. Et c'est pour ça que j'ai calculé, j'ai regardé un petit peu les années juives, à combien on en est, et en extrapolant, on tombe sur un retour de Jésus en 2240. Alors, ne le prenez pas du tout pour argent comptant, c'est pour blaguer. Hein. Mais, moi, ça m'a touché quand je l'ai fait, parce que je me suis dit, mais attends, 2240, mais alors c'est peut-être mes arrière, petits-enfants. Alors, on sait bien qu'on doit vivre comme si c'était demain ou ce soir que Jésus revenait. Hein. Ok. Mais à force de le dire, ça, bon, voilà. Mais de se fixer une date en disant, mais finalement, pourquoi pas, cette histoire des 6000 ans qui sont 6 semaines, et puis la 7e, le 7, 6 jours, et puis le 7e jour des 1000 ans du millénium, etc. Ça a de la cohérence, quoi. Et donc, je me dis, mais waouh, il faut que je tienne bon, et il faut que la génération la tienne bon, et l'autre d'après, parce que ça y est, peut-être. Bon, c'est pour rire, hein. Puis donc, un règne de 1000 ans sur terre avec Jésus et les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui commence. Voilà. Je finis avec ma conclusion. Lire et comprendre. Ah non, ça, je passe, c'est des slides. Ah ben, il n'y a pas ? Bon. Elle était avant, mais je ne peux pas revenir en arrière. Tu peux remettre ? Voilà, merci pour ma conclusion. Lire et comprendre. Pour rentrer dans la Bible, c'est facile. C'est l'histoire d'un homme, d'un peuple. Un peu de géographie, un petit peu de chronologie, quelques bonnes traductions et bons commentaires. Moi, je vous recommande cette Bible sur laquelle je travaille, la Bible avec les commentaires de MacArthur. Sinon, les protestants lisent en général, vous savez, la Bible seconde et tous les dérivés renouvelés de la seconde, Genève, etc. etc. La Bible qui serait la plus proche du texte, ce serait la Tobe, d'après les scientifiques. Bon, je voulais parler de la confession de foi de La Rochelle, et on le fera une fois. Et je terminerai en disant, et pourquoi pas apprendre de temps en temps par cœur un verset biblique, hein ? Ça serait tellement une bonne chose. Alors, à nos enfants, certes, mais aussi aux adultes. Merci, excusez-moi d'avoir été long.
Merci Joël. Non, tu n'as pas été trop long. On a commencé à 10h15, on finit à 12h15, donc ça va. Donc si on arrive à commencer à 10h, on peut finir à midi. Bon dimanche à tous. S'il y a des personnes qui souhaitent qu'on prie pour elles, vous pouvez venir devant et on prendra le temps de prier pour vous. Et à tout à l'heure pour l'Assemblée Générale.